porter le mystère de l'agonie, de la croix et du sépulcre dans une lumière de théologie mystique. C'est toujours très important pour nous de comprendre que le mystère de la foi dépasse infiniment tout ce que nous pouvons dire sur le mystère de la foi, sur le mystère révélé. On peut avoir un langage, celui de saint Thomas, d'analyse. Théologie scientifique veut dire analyse. On analyse pour chercher les causes. Et saint Thomas recherche les causes. En théologie mystique, on essaie de tout comprendre à la lumière de l'amour. C'est la cause finale qui commande tout. C'est pour ça que pour notre cœur humain, la théologie mystique est plus immédiate. Je ne dis pas qu'on peut prêcher la théologie mystique dans une paroisse. C'est un tout petit peu difficile. Mais dans une prédication où il y a une vie monastique, pouvoir prêcher au niveau d'une théologie mystique, et surtout si on fait des conférences spirituelles en réalité doivent se situer à ce niveau-là. Cette fameuse distinction de saint Thomas qu'il ne faut jamais oublier au point de vue de la prédication. Il y a diverses vitesses, il y a la prédication pour préparer les catéchumènes au baptême. Il y a la prédication au peuple de Dieu. C'est la prédication du père Marie-Alain à Genève. Ou du père Marie-Benoît à Cotignac. Encore plus. Marie-Thomas à Cotignac. Prêche pour une paroisse. Et puis, il y a la prédication, comme dit saint Thomas, des secrets qui se font pour les âmes consacrées. Tout chrétien est une âme consacrée. C'est bien évident. Tout chrétien est appelé à la sainteté. C'est pour ça que tout chrétien peut suivre des retraites de chrétienté dans les foyers de charité. Venir pendant quelques jours à l'ombre d'un couvent pour vivre de la vie du couvent. Entrer dans le silence de la vie monastique, c'est capital. C'est entrer dans le silence de la vie monastique. On est tellement peu habitué au silence. Le silence ne devient positif. Ne l'oublions jamais. Que lorsque on porte des secrets, tant qu'on ne porte pas de secrets, le silence apparaît ascétique et donc terriblement difficile à porter pour quelqu'un qui n'a pas une âme stoïcienne. Et comme aujourd'hui, nous avons très peu d'âmes stoïciennes ou très peu de personnes humaines. La formation stoïcienne, c'est très difficile de garder le silence. C'est bien. ça que j'appellerais le silence mystique, à la différence du silence ascétique. Le silence ascétique, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Je cite souvent cet exemple parce que ça m'a tellement frappé, ayant prêché dans le camp. S'il n'y a pas de nourriture intérieure, le silence devient un signe du vide ou de la mort. Alors c'est insupportable. C'est vrai, un cadavre garde le silence. Tu vois, ce serait très impressionnant qu'il se mette à parler. Un cadavre garde le silence et on trouve ça normal, on le sait. Parce qu'il est mort. Parce qu'il n'y a pas la vie. Parole et signe de vie. Quand un gosse bavarde, on sait très bien ce que ça veut dire. Mais quand une grande personne continue à gazouiller, comme un petit enfant, c'est un peu gênant. Et quand une grande personne commence à garder des secrets, alors elle entre dans le silence. La prédication aux âmes consacrées doit communiquer les secrets. Et c'est ça la théologie mystique. C'est de saisir comment toute parole divine est porteuse d'un secret. Verbum spirans amorem. parole divine doit engendrer en nous un amour. Et tant que la parole de Dieu n'engendre pas en nous un amour, cette parole n'est pas reçue pleinement et totalement. Et c'est là où on voit comment le sens littéral aboutit nécessairement au sens mystique. Ça ne peut pas être autrement. Autrement, ce n'est plus une parole divine. La parole humaine n'aboutit pas toujours à l'amour. Quand vous achetez au marché des légumes, vous parlez aux gens qui vendent. Ça aboutit à un commerce. Mais ça n'aboutit pas à un amour. Et vous êtes très content, on s'est compris. Vous avez demandé des carottes, on vous a donné des carottes. Vous avez demandé des navets, on vous a donné des navets. Vous êtes très content. Et le prix est exactement. La parole a servi uniquement dans l'ordre utilitaire du commerce. On aurait vendu ce parfum 300 deniers. Parole divine, c'est extraordinaire. Mais elle est révélée pour nous faire comprendre la profondeur du cœur de Judas. Devant un geste d'amour, vous pouvez comprendre un geste d'amour d'une manière purement économique. Combien ça vaut ? 300 deniers. Et la finalité, ce geste, uniquement l'amour. Et l'amour, ça ne vaut pas 300 deniers. Mais ça ne vaut rien. Vous voyez bien dans quel sens je veux dire. Économiquement parlant, ce n'est pas mesurable. Donc ça n'entre pas dans le jeu économique. Et une parole divine comme celle-là exprime d'une façon très précise un échange économique. Ça ne va pas plus loin. Et ça va beaucoup plus loin, puisque ça nous fait regarder le cœur de Judas. Et regarder le cœur de Judas dans une lumière divine. Et si on regarde le cœur de Judas dans une lumière divine, on s'aperçoit que Judas ne comprend plus le mystère de la présence de Jésus. Et ne voit plus en Jésus qu'un homme comme un autre. À ce moment-là, on peut comprendre son irritabilité à l'égard de ce geste de Marie. Quand il s'agit des paroles de Jésus, ces paroles de Jésus ont toujours un sens mystique. Tout le temps. Parce que les paroles de Jésus proviennent de l'amour et retournent à l'amour. Et c'est pour ça que la théologie mystique doit essayer de découvrir à travers l'Écriture et spécialement l'Évangile. Les lettres, les épîtres de saint Paul et de saint Jean, de saint Jacques et de saint Pierre, découvrir leur signification mystique, c'est-à-dire leur signification dans l'ordre de l'amour. Je crois que c'est très important, ça, de comprendre qu'il y a diverses lectures de l'Écriture. L'Écriture a une telle richesse. Il y a d'autres lectures. Vous pouvez très bien lire l'Écriture en essayant de comprendre comment la révélation aboutit au Christ et qu'elle s'est faite progressivement. Vous avez une lecture historique. Il y a une lecture historique. La parole de Dieu est toujours liée à des faits historiques. Puisqu'elle aboutit au Christ, qui est né à Bethléem, qui a vécu à Nazareth, qui est mort. mort sur la croix. Toute parole divine est liée à des faits historiques, de façon plus ou moins directe, mais toujours. Donc le sens historique fait partie du sens littéral, c'est sûr, mais pas toujours immédiatement. Pas toujours immédiatement. Le sens littéral historique, quand Jésus enseigne de façon prophétique la venue du Paraclet, vous allez me dire oui, la Pentecôte, sens historique. C'est sûr, mais ça regarde le mystère du Paraclet. Quand Jésus enseigne le mystère de l'Église, ça regarde l'Église dans son cheminement, mais avant tout le mystère. C'est pas le cheminement de l'Église qui me fait comprendre le mystère, c'est le mystère de l'Église qui me fait comprendre son cheminement. Il faut respecter la primauté dans un sens littéral. Est-ce que c'est le sens littéral? Est-ce que c'est le sens historique du premier? Ou est-ce que c'est le sens mystique? Je crois que c'est très très important pour nous. On reviendra sur ce sujet à propos de la personne. Parce que je crois que ça touche directement à la personne. Ça. Et c'est très important. Parce que c'est ça qui donne la clé, sans doute. Problème de la personne et le problème du mystère de la personne relève de la personne. Je veux dire, le problème de la parole et le problème du mystère de la parole relève du mystère de la personne du Christ. Et donc, je ne peux pas parler d'une façon mystique de la signification de la parole du Christ sans regarder la personne du Christ. Et ça, je crois que c'est capital pour nous, parce que c'est le gros problème théologique d'aujourd'hui. Alors, entrons tout de suite dans ce que Saint Luc nous dit sur le mystère de l'agonie. Vous savez bien que Jean nous dit très peu de choses sur l'agonie. Et alors ici, je vous rappelle le petit principe d'exégèse entre Luc et Saint Jean. Je crois qu'on peut le prendre. Une des sources principales de Luc, c'est sûrement Jean et Marie. Je crois Marie par Jean. Ça, je crois qu'on peut le dire. Puisque Saint Luc lui-même nous dit qu'il va au meilleur source. Et Luc connaît Jean. Et donc, Jean est sûrement une des meilleures sources au moment où Luc écrit son évangile. Tout ce que Jean a communiqué à Luc, il n'a pas besoin de le reprendre. Mais tout ce qu'il n'a pas communiqué à Luc, et qu'il considère que ce n'est pas exactement ce qu'il faut dire, il le reprend avec sa liberté extraordinaire de disciple bien-aimé. Jean est une liberté extraordinaire dans son évangile, bien plus que tous les autres, parce qu'il est le disciple bien-aimé qui parle en disciple bien-aimé et qui nous révèle par le fait même les secrets. L'aspect historique intéresse Jean dans la mesure même où ça nous permet d'entrer plus loin dans le sens mystique. Mais c'est toujours second. C'est pas premier. Mais ce qui intéresse Cana, c'est que c'est le premier signe. Est-ce que Cana est le premier signe historiquement? Je vous laisse. Ce qui est intéressant, c'est pour Jean, c'est le premier signe. Je crois que c'est le premier signe. Je crois que c'est le premier signe, même historiquement. C'est pas dit. C'est pas dit. Puisque si vous regardez Matthieu, Marc, Luc, le premier moment de la vie apostolique de Jésus n'est pas le même. À Alors, selon certains procédés d'exégèse aujourd'hui, c'est Marc, le noyau le plus historique. Alors, on ramène tout à Marc. Mais si on se dit que la parole de Dieu n'est pas premièrement historique, mais premièrement mystique, et que quelquefois l'aspect historique et le point de vue mystique se rejoignent, alors on regarde Jean. L'exégèse présuppose toujours une théologie. Toujours. Impossible autrement. Puisqu'elle est au service de la théologie. Toute herméneutique présuppose une théologie. Et toute théologie présuppose une philosophie. Donc, Jean ne vous dit rien sur le mystère de l'agonie. Très peu de choses. Parce que je crois, c'est une hypothèse, je crois que c'est Jean qui est la source qui a informé Luc. Alors, ça nous aide pour nous. Puisque tout ce que Jean a communiqué à Luc, nous devons le garder jalousement. symbolisme extraordinaire. Tandis dans le premier récit, les deux sont simultanés. Deuxièmement, dans la Nouvelle Alliance, premier récit, première, l'Annonciation.
Ça a commencé dans une réflexion divine.
tous ces doublés d'écriture sont extrêmement intéressants pour nous. Parce que c'est l'Esprit Saint qui joue avec nous pour nous aider en gardant notre mode comparatif. Celle-là, elle est datée. Ça, c'est sûr. On peut anticiper. L'autre Pâque, elle se réfère à celle-là. Et Jésus a voulu ça. Jusque dans l'ordre de la Pâque. Vous voyez, la relation entre l'ancienne alliance, la première alliance et la seconde alliance. On ne respecte peut-être pas assez ça. Ça s'inscrit jusque le testament du Christ. Il s'inscrit dans cette première Pâque pour, à partir de là, quelque chose de tout à fait nouveau. Alors réfléchissez sur ces silex divins, n'est-ce pas, ces différentes comparaisons pour mieux saisir. Ce qui est sûr, c'est qu'après son testament, Jésus va entrer dans un grand silence. Il a donné son testament. Vous savez bien, quand on a fait son testament après, on peut se taire. Donner son testament, c'est donner ses dernières volontés. Et les dernières volontés du Christ sont données dans le cas, dans l'institution de l'Eucharistie. L'âme de la loi, c'est la Pâque ancienne, la Pâque juive. Et l'Eucharistie, c'est le sommet de toute la nouvelle loi, les sacrements. C'est un sommet qui touche tout de suite ce qu'il y a d'ultime. C'est le viatique. On touche l'ultime. C'est très étonnant cela, de voir que l'Eucharistie brûle le temps. D'une certaine manière, il n'y a plus de temps pour l'Église. C'est pour ça qu'on est toujours dans les derniers temps. C'est le propre de l'aspect eschatologique du testament du Christ qui fait que chaque instant est lié à l'éternité. Et après ce testament d'amour, Saint Jean nous rapporte tout le grand enseignement du Christ qui est dans la lumière de l'Eucharistie et la grande prière de Jésus. Mais Luc nous montre tout de suite ce silence de Jésus. Alors je lis un tout petit peu avant, parce que ça nous aide peut-être à mieux comprendre. Il leur dit, lorsque je vous ai envoyé sans bourse, ni besace, ni chaussures, avez-vous manqué de quelque chose? Ils dirent, de rien. Il leur dit, mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne. Pareillement aussi, celui qui a une besace, et que celui qui n'a pas de glaive fende sans manteau pour en acheter un. Mais je vous dis que ce qui se trouve écrit doit s'achever en moi. Ceci, et avec des 100 lois, il a été compté. Aussi bien, ce qui me concerne touche à sa fin. Ils dirent, Seigneur, voilà ici deux glaives. Il leur dit, cela suffit. C'est très curieux. Comment ça? brillait de façon plus ardente. Et sa sueur devint comme des caillots de sang qui descendaient jusqu'à terre. Ah, c'est ça qu'on interprète par l'angoisse, vous voyez. Il est dit qu'il entre en agonie. On ne dit pas qu'il entre dans l'angoisse. C'est pas la même chose. L'agonie, c'est la lutte extrême. C'est ça le propre de l'agonie. C'est une lutte extrême. Et dans cette lutte, il brille de façon plus ardente. Et c'est la prière tellement ardente qui fait jaillir cette sueur qui devint comme des caillots de sang qui descendaient jusqu'à terre. Et c'est la prière qui commande toute l'agonie. C'est pas l'angoisse. C'est la prière. Une prière très particulière. Une prière qui nous fait toucher un abîme. Ça, c'est sûr. Mais c'est une prière. Et la sueur de sang qui devient comme des caillots de sang qui descendent jusqu'à terre et bien comme une conséquence et de cette lutte habitée par la prière, transformée par la prière. Et se relevant de sa prière, venant vers les disciples, il les trouva endormis de tristesse. Ah, ils sont endormis de tristesse. C'est très curieux, ça. Quand la tristesse est très grande, on ne dort pas. Ah, ils sont endormis de tristesse, avec des cauchemars. Ceux qui sont plus dans l'angoisse, ils sont endormis de tristesse. Et il leur dit, qu'avez-vous à dormir? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Qu'est-ce qu'il demande aux disciples? C'est de prier. Oui, tout le climat de l'agonie, c'est la prière. Ça me semble capital, ça. Jésus demande aux apôtres de prier. Et Jésus lui-même prie. Le mystère de l'agonie, c'est une nuit de prière. C'est une heure de prière. Jésus demande une heure de prière. Il demande ça aux disciples et il demande à nous. Qu'avez-vous à dormir? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Tandis qu'il parlait encore, voici une foule et le nommé Judas, un des douze, les précédait. Et il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient autour de lui dirent, Seigneur, frapperons-nous du glaive. Et l'un d'entre eux frappa l'esclave du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Prenant la parole, Jésus dit, restez-en là. Et touchant son bout d'oreille, il le guérit. Ça, c'est très, très beau. Jésus dit à ceux qui étaient survenus contre lui, grand prêtre, officier du temple et ancien, comme contre un brigand, vous êtes sortis avec des glaives et des bâtons, alors que chaque jour j'étais avec vous dans le temple. Vous n'avez pas étendu la main contre moi. Mais c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. L'ayant saisi, ils l'emmenèrent d'autre chose. Je crois qu'il faut bien saisir ce qui est au cœur du mystère de l'agonie. C'est la prière. Et le contenu de cette prière qui nous Maurice Descoupes. Faut pas l'oublier. Et si elle symbolise Descoupes, je crois qu'on doit essayer de comprendre un peu en parallèle. Il symbolise Descoupes, c'est toujours ce qui a d'ultime, c'est ce qui arrive en dernier lieu. Il y a les livre avec les sceaux, il y a les trompettes, il y a les coupes. Et les coupes sont liées au jugement ultime et dernier. Étant donné que c'est lié, et à la coupe de Jésus. Et je crois